Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Aliette Ovine, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Jean Frédérix.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Troisième épisode de notre série consacrée à l'économie de l'aviation. Après avoir assisté à la conquête des airs au 19e siècle et au duel au sommet entre Airbus et Boeing, et avant d'interroger la mainmise croissante du privé sur les aéroports français, c'est le modèle du low cost que nous allons examiner aujourd'hui. L'hiver a été meurtrier pour les compagnies à bas coût. L'envolée des prix des carburants et l'accroissement de la concurrence ont eu raison de la danoise Primera Air et de l'islandaise Wow Air, tandis que Norwegian, pionnière du long courrier à bas coût, affiche une santé plus chanceuse que jamais. Si le low cost a bel et bien bouleversé le ciel européen, la conquête des vols au long cours s'annonce beaucoup plus compliquée. L'occasion pour nous d'observer les rouages d'un modèle confronté à de nouveaux défis. Il est 14h sur France Culture et aujourd'hui encore, nous allons entendre l'écho du grand air. Nous allons explorer le modèle économique du low cost en compagnie d'Emmanuel Combes, professeur à l'Université Paris 1, vice-président de l'Autorité de la concurrence et auteur d'un ouvrage intitulé « Le low cost » dont la nouvelle édition est parue hier à la Découverte. En fin d'émission, Arjuna Andrade sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho.
Je pense que c'est une compagnie qui a changé la façon dont les gens avaient de voyager. Avant EasyJet, et je dois le dire, d'autres qui suivent le même modèle, les compagnies aériennes étaient plutôt chères, leur offre limitée, et je pense que des compagnies telles que la nôtre, et la nôtre en tout premier, ont été capables de changer ce schéma et de s'engager avec les clients de façon très différente.
Bonjour Emmanuel Combes.
Bonjour Tiphaine.
Merci beaucoup d'être avec nous. On entendait Johan Lundgren, le directeur d'EasyJet, louer la réussite du low cost. C'est un modèle qui a véritablement bouleversé le secteur aérien, Emmanuel Combes.
Oui, on peut dire que c'est une véritable révolution. Révolution tout d'abord par la part de marché qu'il a réussi à obtenir en l'espace de 30 ans. On va parler de l'Europe, hein, sans aller sur le cas américain. Il faut bien se rendre compte que le low cost, c'est relativement récent. Il est né dans les années 90, notamment avec EasyJet et Ryanair. Et il a conquis quasiment la moitié des vols intérieurs, donc des vols intra-Europe, c'est considérable. Dans aucun autre secteur, il n'a connu une telle réussite. Donc premièrement, il a complètement bouleversé le marché. Mais plus profondément, au-delà de la part de marché, le low cost a changé pour le client la manière de voyager, comme le disait le patron d'EasyJet, et il a aussi changé la manière de faire de l'aérien, de baisser les coûts de production. Et c'est peut-être là-dessus, au fond, qu'il peut être intéressant de revenir, c'est mais quelle est l'essence même du modèle low cost ? Dans l'aérien.
Vous parlez d'importantes parts de marché et en même temps, ce que vous dites, Emmanuel Combes, c'est que l'influence du low cost est beaucoup plus importante par rapport à la réalité de ces parts de marché.
Oui, parce qu'en économie, dès que vous avez une part de marché importante, vous allez influencer tous vos concurrents. Je vais le dire autrement, aujourd'hui, une personne qui prend un vol Air France, qui n'est pas une compagnie low cost, a quelque part les bénéfices de l'entrée de compagnies comme EasyJet en France, parce que nécessairement, Air France d'abord a dû diminuer ses prix. Elle a dû aussi changer sa manière de faire voyager les personnes. Vous l'avez peut-être remarqué, quand vous prenez un billet en classe économique sur certaines compagnies, vous n'avez pas le bagage inclus. Ça, c'est l'art, la manière de voyager des low cost. Donc je dirais, le low cost a une influence qui dépasse sa part de marché. Non seulement il a un impact sur les prix, il fait baisser très fortement les prix, mais il oblige même les compagnies installées, entre guillemets, à s'adapter, soit en baissant les coûts, soit également en changeant même la prestation, on va y revenir, la manière même de voyager.
On va revenir effectivement sur la réaction des compagnies traditionnelles à cette arrivée des compagnies low cost, mais d'abord parlons justement des moyens de diminuer les coûts. La principale recette du low cost tient dans le fait justement de réduire la prestation au minimum nécessaire, c'est-à-dire le voyage d'un point A à un point B.
Non, mais vous avez raison, Tiphaine, le mot low cost en fait est en ambigu, parce que souvent, quand on demande à une personne qui ne connaît pas forcément le modèle, hein, ce n'est pas un reproche, hein, c'est un constat, mais qu'est-ce que le low cost ? Ah ben le low cost, c'est simple, tu baisses tes coûts, tu fais un produit de mauvaise qualité et donc forcément, ça fera baisser les prix. En fait, on confond la cause et la conséquence. La cause, le principe même du low cost, c'est de prendre un produit très compliqué. Dans un billet d'avion, il y a plein de choses. y compris le fameux café gratuit qu'on va vous offrir. Il n'est pas gratuit, hein, il est compris dans le prix du billet. On va prendre ce produit-là, on va enlever tout ce qui est accessoire, le café, le service à bord, etc. Et on réduit à la plus simple expression. Et quelle est la plus simple expression du transport aérien ? C'est la sécurité. Tout le reste va être mis en option payante. Donc, premièrement, on redéfinit le produit dans un sens très simple. Si vous avez un produit très simple, forcément, ça fait baisser les coûts, puisque la promesse est elle-même très simple. Si vous baissez les coûts, vous baissez les prix. Et comme les prix sont en général supérieurs aux coûts, vous faites des marges. Car ne l'oublions pas, on va y revenir, les compagnies low cost, les grandes, sont extrêmement rentables. Ce sont les compagnies les plus rentables au monde. Donc, vous avez raison, le low cost, il faut bien partir de la notion de produit. En simplifiant le produit, je fais baisser les coûts. La baisse de coûts n'est que la conséquence. Donc, si vous n'avez pas un travail d'abord sur les besoins du client, alors pour moi, vous n'êtes pas véritablement un low cost. Un low cost, ce n'est pas une entreprise qui vend des billets pas chers. D'abord, le low cost, ça peut être très très cher. On y reviendra. Si vous réservez votre billet la veille, ça peut être très cher. Si la compagnie low cost se retrouve seule sur une ligne, bah, ça s'appelle un monopole. Un monopole à bas coût, ça reste un monopole. Donc, la vraie définition du low cost, pour moi, c'est vraiment ce travail de simplification à l'extrême. Donc c'est d'abord un travail sur le client.
Et c'est ce qui explique, Emmanuel Combes, que par exemple EasyJet a connu un bénéfice entre 2007 et 2018 de 17% à peu près, je crois, précisément parce que EasyJet, comme Ryanair et comme d'autres compagnies, tirent une bonne partie de leur chiffre d'affaires, justement de la vente de ces options payantes.
Voilà, alors il y a vraiment trois secrets, si j'ose dire, dans le low cost. D'abord, je vais baisser très très fortement les coûts en faisant voler mes avions en permanence. Donc les avions restent très très peu de temps au sol, en moyenne une demi-heure. Ça, c'est l'aspect baisse de coûts. Je simplifie le produit. Donc, si je simplifie le produit, par définition, ça fait baisser mes coûts.
Et c'est pour ça qu'ils utilisent les aéroports secondaires.
Tout à fait. Alors,
pour aller
pas
plus
tous,
vite
on
aussi.
Va y revenir. Ryanair, mais pas EasyJet. Il y a différents modèles low cost, mais vous avez raison, pour Ryanair. Donc, je simplifie mon produit, donc je fais baisser mes coûts. Premier secret. Les baisses de coûts sont considérables. On ne se rend pas forcément compte, peut-être pour nos auditeurs, si vous prenez comme benchmark, comme référence pour parler français, une grande compagnie comme Lufthansa ou Air France, en base 100, Ryanair est à 30 de coûts de production, c'est-à-dire qu'elle produit 70% moins cher. EasyJet, on est plutôt sur une baisse de coûts de 40%. C'est tout à fait considérable. Mais vous avez raison, le secret, c'est pas que de baisser les coûts. C'est ensuite de vendre des options payantes. Typiquement, le café à bord, et la réservation, le fait d'avoir le droit de rentrer le premier dans l'avion. C'est quand même une idée assez géniale de dire « je vais vous faire payer le droit de rentrer le premier dans l'avion ». Ça coûte combien ? Zéro. C'est 100% de marge. C'est très important pour les low cost. On est sur des ratios de l'ordre de 20% du chiffre d'affaires. Et puis un troisième levier de création de valeur pour les low cost, c'est ce qu'on appelle en anglais le yield management, c'est-à-dire une tarification très agressive. Très agressive, ça veut dire quoi ? Si vous réservez très tôt, oui, vous avez des billets à 10 euros, 15 euros, 20 euros. Mais si vous réservez la veille, vous avez des billets, vous pouvez en faire l'expérience, hein, qui sont même parfois plus chers que ceux des compagnies historiques. Donc, vous avez une capacité à, au fond, vendre très, très cher la prestation pour celui qui réserve au dernier moment. Donc, voilà, les trois secrets, c'est je baisse les coûts, les revenus auxiliaires et troisièmement, une tarification extrêmement agressive à la baisse, mais également à la hausse. Il faut savoir qu'un billet Ryanair réservé la veille, c'est en moyenne 7 à 8 fois le prix, 7 à 8 fois le prix que celui que vous auriez obtenu si vous aviez réservé 6 mois d'avance.
Vous disiez, Emmanuel Combes, qu'il existait plusieurs modèles de low cost. Il faut effectivement préciser peut-être qu'il y a l'ultra low cost, ça c'est Ryanair, et le middle cost qui est incarné par exemple par EasyJet.
Oui, c'est vraiment deux modèles à mon avis complètement différents. Vous avez raison de le dire, Ryanair va décoller plutôt d'aéroports secondaires. On y reviendra sans doute, Ryanair a posé quand même des sujets, des vrais sujets en matière de droit de la consommation, de droit des passagers et de droit du travail. Parce que vous le savez, une partie, enfin pas une partie, les pilotes ont été pendant longtemps sous droit du travail irlandais, qui était un petit peu moins 10 ans, enfin même carrément moins 10 ans. Et vous avez une compagnie comme EasyJet, c'est un modèle complètement différent. On décolle de grands aéroports, donc EasyJet paye les mêmes taxes aéroportuaires, par exemple qu'Air France, et surtout on accepte le droit du travail local. Ce qui fait des coûts de production très différents. Je le disais tout à l'heure, EasyJet produit à 60% du coût d'Air France, Ryanair à 30%. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes bases de coûts. Ce qui veut dire aussi qu'ils ne vont pas chercher les mêmes clientèles. Le businessman prend moins Ryanair qu'il ne prend EasyJet. EasyJet est devenu une compagnie plutôt business. Donc, attention, quand on parle de low cost, il y a au moins, vous avez raison, deux modèles assez différents.
On a parlé de la réduction des coûts, Emmanuel Combes. Je voudrais revenir simplement sur la réduction des coûts sur toute la chaîne de valeur. Ce qu'on voit, c'est que les compagnies low cost vont essayer au maximum de gagner du temps, mais aussi de l'espace dans l'avion. Et là, ça rejoint la question du confort et des droits des passagers.
Alors, oui et non, parce que le confort ne fait pas partie de, n'est pas de l'ordre du droit, c'est de l'ordre du confort. Alors justement, les passagers, il faut que le message soit très clair. Le low cost vous dit, je vous fais une seule promesse, c'est celle de la sécurité. Force est de constater que cette promesse est réalisée. En 30 ans, Ryanair n'a jamais connu d'accident fatal, EasyJet non plus. Le confort, est-ce que c'est de la qualité nécessaire? C'est de la qualité, si j'ose dire, accessoire. Il est toujours mieux de voyager confortablement que de ne pas voyager confortablement. Mais si on vous dit, en échange d'un prix très bas, on est quand même sur des tickets chez Ryanair de l'ordre de 30 euros pour un aller, chez EasyJet de l'ordre de 60 euros, vous serez plus serré, vous avez des clients qui vous disent, eh bien, écoutez, si le contrat est clair, alors j'accepte cela. Donc, il faut bien distinguer, je dirais, dans la baisse des coûts, ce qui relève de l'accessoire. En fait, le low cost enlève l'accessoire, mais vous avez raison, on voyage serré dans les low cost. Vous aurez remarqué néanmoins que les grandes compagnies historiques ont été obligées de s'adapter et font aujourd'hui la même chose. Vous aurez constaté que dans bon nombre de grandes compagnies historiques, il n'y a plus de classe business sur les vols de moins de 3 heures. C'est la classe, si j'ose dire, éco pour tout le monde. Donc au fond, cette idée qu'on voyage serré, c'est quelque chose qui au fond s'est un peu imposé comme le standard, attention, sur des vols de moins de 3 heures. Sur le long courrier, c'est un autre sujet, on y reviendra peut-être.
Après, Ryanair a été particulièrement friand de polémiques en expliquant, par exemple, qu'ils allaient faire payer deux places à des personnes qui auraient une forte corpulence. On voit qu'ils poussent quand même cette logique particulièrement loin.
Attention, Tiffaine, il y a de la provocation, ça s'appelle de la publicité gratuite. Ryanair a toujours communiqué par la provocation. L'avantage de la provocation, c'est que ça vous fait du buzz pour un coût égal à zéro. Donc, je crois qu'il faut distinguer la réalité. Ils avaient même, à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, envisagé de faire voyager les passagers debout. Il fallait payer finalement pour être assis avec une ceinture de sécurité. Il est évident que tout ça était loufoque. C'est une manière de communiquer. Non, là où Ryanair peut vraiment poser problème sur le droit des passagers, puisque vous avez évoqué ce sujet, c'est parfois le manque d'informations. Le manque d'informations quand je réserve le billet sur typiquement les frais de service. Au moment où je mets ma carte bleue, on m'explique que finalement il y a des taxes qui vont s'imposer qui n'étaient pas prévues au départ. Lorsqu'un vol est annulé, le droit au remboursement, c'est plutôt sur ces sujets-là qui relèvent vraiment du droit. Un passager a le droit d'être remboursé, par exemple, si un vol est annulé.
Et justement, sur la question de l'indemnisation, il y a eu un certain nombre de problèmes pour un certain nombre de compagnies aériennes.
Et ils ont été condamnés à plusieurs reprises. À l'occasion notamment du volcan islandais, Ryanair a été condamné pour n'avoir pas aider des passagers à être pris en charge.
Et précisons que Ryanair n'est pas le seul à avoir été épinglé pour cette question des indemnisations.
Mais je rebondis sur votre sujet, c'est extrêmement intéressant sur finalement quel est le droit des passagers. Il y a une décision très récente en Italie, l'autorité de la concurrence italienne a condamné Ryanair, je crois, à plusieurs millions d'euros, 3 millions si ma mémoire est bonne, parce que Ryanair avait décidé de faire payer cette fois-ci le bagage en cabine. Or, l'autorité de la concurrence italienne a estimé que, par définition, quelqu'un qui voyage a minima un sac. Donc, ça revenait, si vous voulez, un petit peu à travestir le droit de la consommation. Donc, Ryanair pose des sujets au niveau du droit de la consommation. Elle pose également des sujets en matière de droit du travail, même si la situation a fortement évolué depuis 2010.
Et ben justement, vous me tendez la perche. L'autre moyen de faire des économies pour les compagnies aériennes low cost, c'est de jouer sur les salaires et plus largement sur les conditions de travail.
J'arrive donc à l'aéroport, il est 5h. Le briefing commence à 5h15, le temps de passer à la sécurité. Là, on rejoint notre crew room, donc crew room, la salle d'équipage, une petite sorte de conteneur, on peut dire, tout en tôle, tout petit, très froid, forcément, la crew room, où il y a une petite machine à café, où là, on se rejoint et on commence le briefing. Donc, avec les pilotes, oui, bonjour. Aujourd'hui, on va faire 4 vols. Donc, on fait Marseille-Lille, Lille-Marseille, Marseille-Fès, Fès-Marseille. On sait que ça va être une grosse journée, qu'on va finir très tard, qu'il y aura des retards. On se dit, la journée va être difficile aujourd'hui. On va atterrir, ça va être 4h, 4h30. On sait qu'on sera chez soi pas avant 5h, 5h30. Voilà. Donc, il faut s'assurer que les crews, mon équipe, soient motivées. Donc, allez les gars, ça va être sympa aujourd'hui. Des fois, ils rigolaient, ils me disaient, oui, Sophia, bien sûr qu'on va rigoler. Oui, 188 passagers, oui, on va rigoler, oui.
Voilà le témoignage de Sophia, une chef de cabine travaillant pour Ryanair. Extrait d'une émission « Des pieds sur terre » de Sonia Krolnoun, diffusée le 17 mars 2017. Ryanair qui a donc connu plusieurs épisodes de grève de ses pilotes et plus récemment de ses personnels de cabine à cause justement des conditions de travail et de rémunération, Emmanuel Combe.
Oui. Alors attention, en même temps, sans méconnaître, on va y revenir, les problèmes que pose Ryanair du point de vue du droit du travail, ne surestimons pas le fait que le coût du travail soit un levier important pour faire baisser les coûts. En fait, quand on regarde la structure de coût de Ryanair, le coût du travail, c'est 12% de sa structure de coût. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on entend souvent, le low cost, c'est pas compliqué, il suffit de payer mal les pilotes et les hôtesses de l'air et ça fait baisser les coûts. Oui, ça les fait baisser au mieux au mieux de un dixième. C'est pas ça le vrai secret.
Il y a tout de même 6 fois moins d'employés par passager transportés dans le low cost que dans les compagnies traditionnelles.
Tout à fait. Ça explique que pour le coup, ça représente relativement peu dans la baisse du coût. Si vous arrivez à baisser les coûts de 60% avec si peu de facteurs travail, c'est justement que la vraie baisse de coût, elle est ailleurs, elle est dans la productivité des appareils. Mais si je reviens sur cet aspect droit du travail, Ryanair, au fond, pendant 30 ans, c'est mon point de vue, c'est une opinion et peut-être que j'ai tort, mais je pense pas qu'elle ait violé le droit du travail. Elle a joué sur les ambiguïtés de l'Europe. En clair, elle a optimisé le fait qu'en Europe, il n'y a pas de, pour reprendre un terme anglophone, de same level playing field. Le droit du travail en Irlande est beaucoup plus favorable aux entreprises qu'en France. Et donc elle disait, puisque vous voyagez, puisque vous travaillez à bord d'un avion immatriculé en Irlande, je vais estimer que vous êtes des travailleurs irlandais. Alors, est-ce que c'est illégal? Compliqué à dire, vous avez des décisions de justice qui sont contradictoires. Sans entrer dans le détail, septembre 2017, des hôtesses obtiennent gain de cause à domicile à Charleroi. La justice belge leur dit « Vous avez le droit de contester la légalité de votre contrat de travail sous droit irlandais ». Sauf que une décision de la Cour de justice 2018 nous dit quoi? Eh bien, il n'est pas illicite en tant que tel de domicilier les PNC et les PNT en Irlande. Il faut regarder au cas par cas. Donc, le droit européen est lui-même instable. Alors, ceci étant, Ryanair a dû se mettre, si j'ose dire, à la page, enfin. Pourquoi? Parce que, vous le savez, il y a pénurie de pilotes en Europe. Grosse pénurie de pilotes. Et donc, les pilotes se sont mis en grève en 2018. Elle a dû consentir des hausses de salaire relativement fortes de l'ordre de 20%. Et surtout, elle a reconnu pour la première fois les syndicats. Car, vous le savez, les syndicats sur une base nationale. Et donc, on pourrait dire, mais alors, finalement, le modèle Ryanair est remis en cause, puisqu'elle reconnaît les syndicats, elle augmente les salaires. Eh bien, en fait, c'est plus compliqué que cela. D'abord, comme je viens de le dire, les salaires, c'est 12% du coût de Ryanair. Ce qui veut dire qu'en réalité, augmenter les salaires, c'est pas ce qui va remettre en péril le modèle économique. Donc attention à ne pas surestimer ce choc-là.
C'est davantage la hausse des prix du carburant qui a fragilisé en l'occurrence Ryanair.
Le vrai premier poste de coût pour une low cost, 40% du coût, c'est le carburant. Mais si je reviens à cette histoire de droit du travail, ce qui est intéressant dans le cas de Ryanair, c'est l'effet boomerang. Puisque maintenant, Ryanair est obligée de reconnaître les syndicats. Elle ne l'a pas fait par plaisir, elle l'a fait parce qu'elle était contrainte. Les pilotes partaient. Eh bien, elle vous dit, très bien, je reconnais les droits du travail français, eh bien, je vais venir en France. Et donc, vous allez avoir un effet boomerang, c'est que vous le savez, depuis quelques semaines, Ryanair va ouvrir. Ryanair n'est pas présente en France. Elle atterrit en France. Elle n'a pas ce qu'on appelle de base. De base, c'est-à-dire des avions avec des équipages qui dorment.
Mais elle va ouvrir une base à Marseille.
Marseille, Bordeaux, Toulouse, à mon sens... Je ne dis pas dans la boule de cristal, je pense qu'il faut s'attendre à un choc Ryanair en France. Donc attention, cet argument du droit du travail pourrait se retourner paradoxalement contre ceux qui pensaient que Ryanair allait être handicapé. Ryanair reste une compagnie extrêmement rentable.
Mais ce qu'on constate tout de même, Emmanuel Combes, c'est que Ryanair a été extrêmement critiqué, justement, pour les conditions de travail de ses pilotes, mais aussi de ses personnels de navigation, alors que d'autres modèles, même dans le low cost de gestion du travail, sont possibles. Je pense en particulier à la compagnie Southwest Airlines aux États-Unis. C'est la première compagnie low cost américaine en termes de nombre de passagers, donc comme Ryanair l'est elle-même en termes de nombre de passagers en Europe. Et le modèle de Southwest Airlines est totalement différent.
Ouais. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Et je le répète, l'idée, c'est pas de défendre le low cost. Le low cost existe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a les modèles les plus opposés en matière de conditions de travail. On a en effet le modèle Ryanair qui est fondé au fond sur quoi? J'évite à tout prix les syndicats. Bon, quand je suis obligé de les reconnaître, je les reconnais. Et un contrôle hiérarchique. C'est très hiérarchique. Et puis, vous avez exactement à l'opposé, vous avez raison, Tiphaine, la compagnie Southwest, qui, elle, a deux caractéristiques inverses. D'abord, coopération avec co-gestion avec les syndicats. Je crois que le taux de syndicalisation chez Southwest est de l'ordre de 90%. Et surtout, engagement du personnel, avec des promotions de carrière, avec une carrière interne. Donc, c'est intéressant parce que ça remet un petit peu en cause cette idée trop simple. Low cost égale forcément moins 10 ans social. C'est possible, et il faut le regretter. Mais c'est pas consubstantiel le modèle. On peut faire du low cost, si j'ose dire, par le haut. Regardez Transavia, qui est la filiale française de Transavia Hollande, qui est donc la filiale d'Air France. Les pilotes, les hôtesses sont sous droit du travail français. Les conditions sociales, enfin, je ne suis pas allé regarder de près, mais j'ai pas entendu qu'il y ait de scandale social au sein de cette compagnie. Donc je crois que c'est intéressant vraiment de dire, attention, le low cost, si c'était si simple, le low cost, ça n'est pas nécessairement je baisse les salaires. C'est d'abord, je suis très très efficace et j'externalise aussi toutes les fonctions secondaires. Ça, c'est important. Dans une compagnie low cost, au fond, les seuls salariés, c'est les hôtesses et les pilotes, point à la ligne. Tout le reste est externalisé.
Et alors, ce qu'on constate, Emmanuel Combes, c'est que en baissant le prix moyen du billet, les compagnies low cost cherchent également à créer une nouvelle demande, à attirer des voyageurs qui ne se seraient pas déplacés si les tarifs étaient plus élevés. Et alors, justement, on peut se demander qui sont les clients des compagnies low cost, parce qu'on pourrait penser que des prix bas s'adressent surtout à une population qui a de faibles moyens. Alors, qu'en est-il, Emmanuel Combes ?
Alors, vous avez raison, ça c'est fondamental. Quand vous baissez un prix, hein, c'est de l'économie, mais de l'économie importante, vous avez forcément un effet sur les volumes, vous stimulez ce que vous avez appelé fort justement l'effet d'induction. Il est énorme dans l'aérien. On l'estime entre 30 et 40%. Qu'est-ce que ça veut dire ? 30 à 40% des personnes qui sont dans les avions low cost n'auraient pas voyagé si le prix n'avait pas été attractif. Alors, qui sont ces passagers ? C'est tout d'abord, bien sûr, des étudiants. Vous-même, enfin, vous l'avez été, nous l'avons été. Donc, des étudiants, ce peut être également ce qu'on appelle, en langage technique, des VFR, des personnes qui ont soit une résidence secondaire, soit qui ont des attaches familiales et qui, au lieu de revenir une fois par an, vont revenir plusieurs fois par an pour des week-ends. Mais c'est aussi des hommes d'affaires. Là aussi, attention à l'image d'Épinal. Le low cost, c'est en réalité réservé à une clientèle à bas revenus et plutôt étudiante. C'est pas du tout le cas pour EasyJet. EasyJet est devenue une compagnie très, entre guillemets, business. Pourquoi ? Première raison, elle s'implante dans des grands aéroports. Secondement, elle propose plusieurs vols par jour, ce qu'on appelle des fréquences. Donc, vous avez vraiment une très grande variété de clients. Et c'est le même client qui, parfois, a un pouvoir d'achat assez substantiel, qui va prendre une compagnie low cost, donc un produit très basique, et qui ensuite va se payer un hôtel, entre guillemets, de luxe. Donc, je crois beaucoup à cette idée. Il n'y a pas des clients du low cost et des clients, entre guillemets, du luxe. Je parle du luxe accessible. On peut avoir des comportements de consommation extrêmement subtils.
Mais ce qui est intéressant et que vous soulevez, en effet, Emmanuel Combes, c'est que peut-être que le low cost a su comprendre que les clients voulaient savoir pourquoi ils payaient quand ils prenaient un billet d'avion. C'est cette transparence qu'on recherche.
Moi, je pense que la grande force du low cost, et c'est pour ça qu'il est promis, qu'on le veuille ou non, à un certain avenir, c'est qu'il y a une forme de vérité des prix. Je ne vous promets pas grand-chose. Je ne vous fais pas rêver. Mais en échange, vous aurez un prix très très bas. Et finalement, le low cost a un point commun avec le luxe. Je vous fais payer très très cher, mais vous allez avoir une expérience client extrêmement élevée. Et on voit aujourd'hui de plus en plus des clients qui ont ce comportement que j'appellerais polarisé. Au moins avec le low cost, si j'ose dire, je sais à quoi je m'attends. Il n'y a pas de fausses promesses, il n'y a pas de fausses surprises. Ce qui veut dire que toutes les compagnies qui ne sont pas low cost sont mises en demeure. Et je reviens à votre question initiale, Tiffaine, du début de l'émission, qui était, mais au fond, pourquoi le low cost, on en parle tant ? Parce que, à part l'aérien, pardon, le low cost, ça reste des petits marchés. Parce qu'il oblige les opérateurs installés à se demander, mais qu'est-ce que j'apporte en plus ? Quelle est la promesse qui me permet de justifier que je fais payer beaucoup plus cher ? N'oublions pas que lorsque vous offrez un produit, si j'ose dire, tout compris, all inclusive, par définition, le client n'aime pas trop. Il se dit, mais finalement, qu'est-ce que je paye ? Quand je paye un billet d'avion, 300, 400 euros, je paye quoi ? Je paye le café dont je n'ai pas besoin ? Je paye le journal dont je n'ai pas besoin ? Avec le low cost, il y a une forme, me semble-t-il, de transparence et de clarté.
Mais vous dites pas de fausses promesses, Emmanuel Combes, mais alors tout de même, n'importe qui aurait fait un voyage à travers une compagnie low cost peut constater tout de même qu'il y a des problèmes de ponctualité, que c'est quelque chose de récurrent, et vous parliez aussi de l'accès compliqué à l'information, des problèmes d'indemnisation. Il y a un certain nombre d'inconvénients dont les gens peuvent se rendre compte dans les low cost.
Vous avez raison sur la ponctualité. Ryanair pourrait tout à fait vous rétorquer, mais la ponctualité n'est pas ma promesse première. Ma promesse première, c'est la sécurité. Et cette sécurité-là, force est de constater qu'elle est remplie. Donc vous avez raison sur la ponctualité, ils n'ont pas toujours été très bons. Et vous avez raison également sur la transparence de l'information. Mais attention, dans un monde d'Internet, dans un monde digital où les personnes comparent, on peut tromper quelqu'un tout le temps, on peut tromper tout le monde une fois, on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Je crois qu'ils ont fait beaucoup de progrès, non pas par la vertu, parce qu'ils ont été condamnés. Il y a eu plusieurs sanctions imposées, notamment en France, au niveau communautaire, à l'encontre des low cost. Je trouve qu'aujourd'hui, franchement, quand vous allez sur les sites internet des grandes compagnies low cost, l'information est relativement claire, notamment sur ce que vous achetez et sur ce que vous n'achetez pas. Mais vous avez raison, Tiffaine, pour que le client puisse choisir en connaissance de cause, encore faut-il qu'il ait accès à toute l'information. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé, je pense que ça a changé. Mais je crois vraiment que si low cost marche, vous savez, ça fait 30 ans, 20 ans que ça existe, même 30 ans pour Ryanair, c'est parce que le client se dit finalement, j'ai pas grand-chose, mais au moins, je paye très peu cher. Donc cette équivalence, vous savez, un client, il raisonne pas en prix, il raisonne en rapport qualité-prix. Au fond, quel est l'opérateur qui est le plus en danger avec le low cost? C'est pas le luxe, c'est celui qui est au milieu et qui offre un produit qui n'est ni extraordinaire, ni bas de gamme, mais par contre qui vous fait payer un prix relativement élevé. Donc, vous voyez, le client a vraiment ce raisonnement, je veux en avoir, pardonnez-moi l'expression, pour mon argent. Et je sais qu'avec le low cost, je n'aurai pas grand-chose. Oui, un, je le sais. Deux, le prix est bas.
Mais vu la longueur des procédures judiciaires, on a le sentiment que les compagnies low cost peuvent effectivement remplir leur promesse qui est d'emmener d'un point A et d'un point B à n'importe quel prix, quitte à laisser de côté un certain nombre d'exigences comme on le disait, la ponctualité, l'information. Et on voit qu'aujourd'hui, est-ce que les clients ont véritablement la possibilité de se tourner vers d'autres opérateurs? Si on voit, si on va du côté des compagnies traditionnelles, les prix sont beaucoup plus élevés. Donc est-ce qu'il y a une véritable liberté de la part des clients?
Alors, ils ont toujours le choix de prendre une entreprise plus traditionnelle avec des prix beaucoup plus élevés. Mais revenons toujours à cette idée. Hein. Le client se dit, d'abord, l'information a vraiment changé. Hein. Très franchement, à l'heure d'Internet, vous pouvez plus comme ça raconter des histoires au client. Le client compare. N'oubliez pas, il y a le comparateur de prix. Hein. Parfois, ça se joue à l'euro près. Donc, je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y a encore un sujet sur le droit de la conso. En tout cas, pas plus qu'avec les compagnies historiques. Non, là où il peut y avoir un vrai sujet, mais est-ce propre au low cost? C'est des compagnies low cost qui ont fait faillite, je pense à Woo Airlines, et qui laissent des clients sur le carreau. Est-ce une spécificité du low cost? J'en doute. Je pense que malheureusement, en Europe, toute compagnie qui fait faillite laisse ses clients sur le carreau.
Ce qu'on regarde, ce qu'on constate avec cette question des clients, c'est que finalement, l'essor du low cost montre que c'est le fait de prendre l'avion ne correspond plus à un statut social, mais c'est d'abord l'aspect utilitaire qu'on y voit quand on prend l'avion, Emmanuel Combes.
Ouais, c'est très important ce que vous dites, Tiffaine. C'est même pour moi capital. C'est qu'en fait, les low cost ont rendu l'avion, ont fait de l'avion une commodité. Et c'est vrai que vous ne dites plus à votre ami, écoutez, j'ai fait Paris-Toulouse en avion. Ok, so what? Vous avez pris l'avion. Par contre, faire un Paris-New York, ça reste de l'ordre de l'expérience. Mais le low cost part de cette idée que certains produits, au fond, ce que vous attendez, c'est simplement quelque chose d'utilitaire. Il n'y a pas d'émotion. Ce que vous voulez aujourd'hui, quand vous allez de Paris à Toulouse, c'est aller vite et en toute sécurité. Donc vous avez raison, le low cost a complètement désacralisé le transport aérien, mais on pourrait dire la même chose dans d'autres secteurs.
Et alors face à cette concurrence, comment les opérateurs historiques peuvent-ils tirer leur épingle du jeu? On en parle dans un instant.
Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Rocchini.
Low Flying Jets de Hitmeiser sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Emmanuel Combes est toujours avec nous pour parler du modèle économique du low cost. Alors on a vu que la compétitivité par les prix avait permis au low cost de conquérir de fortes parts de marché. Mais face à cette concurrence, comment peuvent réagir les compagnies historiques, traditionnelles? Il y a certaines d'entre elles qui tentent de s'aligner justement sur les bas prix, Emmanuel Combes.
Oui, en réalité, les compagnies historiques n'ont pas eu tellement le choix vu la part de marché des low cost. Il faut bien s'imaginer aujourd'hui que dans le ciel européen, une compagnie comme Ryanair, c'est un peu plus de 400 appareils. C'est juste énorme. EasyJet, on doit être autour de 300, 320 appareils. Donc, c'est des compagnies tout à fait considérables. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, le premier transporteur en Europe aujourd'hui, c'est Ryanair, hein, avec quasiment 100, 140 millions de passagers. Donc, elles ont été obligées de s'adapter. Alors, comment elles se sont adaptées? De deux manières. Il y a d'abord la riposte tactique. Et puis après, il y a la riposte stratégique. La riposte tactique, quand vous avez un concurrent qui est sur la même ligne que vous et qui vend beaucoup moins cher, vous n'avez pas le choix, hein. Vous êtes obligé de baisser vos prix. Donc il y a un effet, ce qu'on a appelé parfois l'effet Southwest. Alors, en deux mots, l'effet Southwest, c'est du nom de la compagnie américaine, c'est l'idée que quand vous êtes un opérateur et que vous avez un concurrent low cost qui arrive sur votre ligne, bah, vous n'avez pas le choix, vous baissez les prix. Ça peut être des baisses de prix considérables. Aux États-Unis, l'effet Southwest a été mesuré, on est sur des baisses de prix de 30 à 40%. Donc on arrive à un paradoxe, c'est celui qui ne prend pas le low cost qui en réalité va bénéficier en partie des baisses de prix.
Mais ça, surtout, comment les compagnies historiques peuvent-elles assumer des baisses de prix?
Alors justement, vous avez raison, ça c'est une riposte tactique. Au bout d'un moment, si vous vendez des billets moins chers que votre coût de production, eh bien, par définition, vous avez un vrai problème. Et du coup, la riposte stratégique, c'est de se dire, je vais soit sortir du marché, c'est arrivé. Il y a des compagnies qui ont décidé de délaisser certaines lignes en disant, je ne peux pas mener la bataille, notamment face à Ryanair. Et puis, la deuxième réponse plus intéressante a été de dire, je vais essayer de me différencier. Compliqué de se différencier sur des vols de 2 ou 3 heures. Pourquoi? Vous l'avez dit, Tiffaine, parce que sur un vol de 2 ou 3 heures, les clients, ils veulent pas grand chose, hein. Ils veulent juste de la sécurité. Donc, ils ont essayé de se différencier par l'image. Ça marche pas tellement. Ils essaient de se différencier par le programme de fidélité. Ça, c'est déjà plus malin. Éventuellement par la fréquence. Ça peut marcher pour les hommes d'affaires. Mais en réalité, la vraie riposte, c'est de devenir soi-même low cost. Mmh. Et là, on entre dans un sujet quand même extrêmement compliqué. Comment une compagnie historique peut devenir low cost? En fait, la réponse, on a quand même maintenant un certain recul depuis 15 ans, la réponse me semble assez claire, c'est il est très difficile pour une compagnie historique de devenir low cost, ça n'est pas son ADN. La seule solution qui marche vraiment bien, c'est ce qui a été fait avec Transavia en France, c'est ce qu'ont fait les Anglais avec British Airways qui a racheté Vueling, c'est en réalité de partir d'une page blanche et de créer une nouvelle compagnie pour justement avoir vraiment deux modèles complètement différents avec une véritable muraille de Chine, si j'ose dire.
Et en même temps, il y a potentiellement des conditions de travail et de rémunération qui sont différentes.
Qui sont différentes,
et
complètement.
Ce qui pose un certain nombre de problèmes entre l'opérateur historique et la branche low cost.
Oui et non, parce qu'on peut le voir aussi de manière positive. Il me semble que c'est comme ça que ça a été vu en France et que ça a été accepté par les syndicats qui ont validé la création de Transavia. Il y avait l'idée qu'au fond, les jeunes pilotes commençaient chez Transavia. Ils sont demandeurs de faire beaucoup d'heures. Et ensuite, il y avait une sorte de clause de seniorité qui leur permettait et ensuite, de manière préférentielle, de passer chez Air France. En tout cas, ils se sont dédoublés. Et ce qui est très compliqué quand on se dédouble, c'est justement que les deux modèles, entre guillemets, le terme n'est pas très beau, ne se contaminent pas. Hein, que la compagnie historique, qui fait plutôt du long courrier, ne devienne pas low cost, parce qu'on y reviendra, ça ne marche pas. Et symétriquement, que la compagnie high cost ne fasse pas dériver les coûts de la compagnie low cost. Donc c'est très 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 compliqué.
Et puis ça ne marche pas toujours. Regardez June par exemple, qui va être intégrée à la maison mère Air France.
Alors June, c'est un cas vraiment particulier parce que d'abord il y avait très très peu d'appareils, c'était du low cost essentiellement long courrier. Or, ce qui marche vraiment bien, ce sont les vols de moins de 3 heures. Mais on a des expériences réussies. Vous avez tout d'abord Vueling, qui est la filiale, on ne sait peut-être pas, de British Airways, et qui s'occupe de tout ce qui est court et moyen courrier.
Et qui est devenu le troisième low cost en Europe.
Tout à fait. Vous regardez Lufthansa. Il y a deux entités chez Lufthansa. Il y a Lufthansa qui s'occupe de Francfort. Et puis, vous avez sur les autres lignes intra-Europe une compagnie qui s'appelle Eurowings, ex-Germanwings. Vous avez en France Transavia qui affiche de très bons résultats, qui est limité dans son nombre d'avions à 40 aujourd'hui. Donc, ça peut fonctionner, mais il faut des conditions pour ça. Et la condition la plus importante, c'est vraiment cette muraille de Chine entre les deux entités. Mais on ne peut pas passer d'un modèle high cost à un modèle low cost. Ça, je n'y crois pas. Il faut vraiment partir d'une page blanche. Car le low cost, c'est pas seulement en réalité des baisses de coûts, c'est aussi une certaine opportunisme, une certaine agilité. C'est l'idée, je tente une ligne, ça ne marche pas, je ferme, je rembourse les passagers, je vais voir ailleurs. Ça n'est pas possible dans un grand groupe. N'oublions pas que le low cost, ce sont des compagnies extrêmement opportunistes. Et ça, c'est pas l'ADN, me semble-t-il, d'une compagnie historique.
Il y a une autre possibilité, peut-être pour les compagnies low cost, pour les compagnies historiques, pardon, c'est peut-être d'attaquer les compagnies low cost sur le terrain juridique, en raison des subventions qu'elles touchent parfois de la part des collectivités territoriales. Ryanair, par exemple, a été attaqué après s'être implanté à Strasbourg et à Charleroi en Belgique. Ouais. Est-ce que ça, ce sont des procédures qui peuvent être efficaces, Emmanuel?
Alors, ce sont des procédures qui, malheureusement, ont du mal à prospérer. Pourquoi ? Parce que le temps juridique est très long. C'est un temps qui peut prendre parfois plusieurs dizaines d'années. Dans le cas de Charleroi et dans le cas de Strasbourg dont vous parlez, les décisions ont pris plusieurs années. Donc c'est une riposte qui n'est pas, à mon avis, effective quand il s'agit de réagir sur le champ. Maintenant, est-ce que ces contentions ont prospéré ? Oui et non. Oui, parce que certaines condamnations ont été obtenues de la part de Ryanair qui a dû rembourser des aides. Mais attention, toute aide n'est pas interdite en Europe. Notamment, les aides sont autorisées lorsque vous lancez une nouvelle ligne ou lorsque vous êtes en mesure de démontrer que la ligne que vous ouvrez va permettre à un petit aéroport, par exemple, situé dans une zone excentrée, justement, d'être relié au reste de l'Europe. Donc, c'est très compliqué. Et alors, à nouveau, on a vu l'effet boomerang. On a vu des compagnies porter plainte contre Ryanair pour finalement être condamnées elles-mêmes. Transavia a été également condamnée à rembourser des aides. Donc, je dirais que la stratégie juridique, c'est une stratégie qui n'est pas, à mon avis, efficace compte tenu des délais et qui est complexe parce que les aides d'État ne sont pas toujours incompatibles.
Mais alors justement, comment expliquer l'attribution de ces subventions ? Écoutons le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, c'était le 4 novembre 2010 sur France Inter.
Ryanair avait basé 4 avions à Marignane et prévoyait d'en baser un cinquième en 2011. C'est plus de 500 employés. Ça a apporté à Marseille-Provence, ça a apporté des millions de passagers. On fait travailler des gens. Mon but à moi est de faire sans cesse reculer le chômage. Alors, deuxièmement, c'est que on fasse travailler les gens. Et troisièmement, le monopole n'est pas une bonne chose. Et on le voit tous les jours. Bon, et par conséquent, on peut pas être dans un pays où il n'y a pas la liberté totale, où il y a la liberté et la concurrence.
Voilà, ce qu'on entend ici avec Jean-Claude Gaudin et Emmanuel Combes, c'est que les aéroports régionaux cherchent à tout prix à attirer les compagnies low cost qui elles-mêmes en bénéficient.
Oui, les petits aéroports, il est évident qu'EasyJet à Roissy, à Orly payent les mêmes taxes qu'Air France. Mais en effet, vous avez raison, Tiffaine, sur les petits aéroports, un moyen d'attirer ces compagnies, c'est de les subventionner, notamment pour le démarrage de lignes. Économiquement, c'est pas complètement irrationnel de dire si je fais, comme le dit Monsieur Gaudin, si je fais un calcul coût-bénéfice, si ça me permet d'attirer, par exemple, une clientèle anglaise, je pense à Bergerac, vous avez un Londres-Bergerac, qui va ensuite acheter des résidences secondaires, qui va faire tourner l'économie locale, qui a un fort pouvoir d'achat, le calcul n'est pas forcément un mauvais calcul. Alors ce qui est intéressant dans l'histoire de Marseille, vraiment en deux secondes, c'est que Ryanair a été condamné pour travail dissimulé. Comme je le disais tout à l'heure, la Cour de justice en 2018 a rendu un arrêt où elle dit, écoutez, il faut regarder au cas par cas. Et du coup, la condamnation de Ryanair a été annulée à Marseille. Donc la condamnation de Ryanair, qui avait incité Ryanair à quitter Marseille, a été annulée. Donc oui, c'est très compliqué, à la fois sur le plan des subventions et même sur le plan du droit du travail. Mais prima facie, moi je suis pas choqué par l'idée de subventionner une compagnie dès lors que les conditions sont transparentes, dès lors que c'est proportionné. Mais l'idée qu'un petit aéroport excentré puisse toucher des subventions, c'est prévu par l'article, par les lignes directrices et l'article 107. L'article 107, il interdit les aides d'État par principe, mais il dit il peut y avoir des dérogations dans des cas spécifiques.
Et c'est ce qui explique EasyJet, par exemple, ait ouvert sa 7e base en France, là, il y a quelques jours, à Nantes.
Je suis pas sûr, faudra regarder, est-ce que EasyJet a eu des tarifs préférentiels? Je ne pense pas. Là, on parle vraiment de petits aéroports. Pour moi, la compagnie qui utilise beaucoup les aides aéroportuaires, c'est surtout Ryanair, qui va atterrir à Nîmes, à Bergerac, à Pau. Je ne suis pas sûr que sur Bordeaux et Toulouse, alors Bordeaux-Toulouse, il y a peut-être des taxes moins élevées parce qu'il va y avoir un terminal qu'on appelle low cost, avec moins de prestations. Mais ça, en économie, c'est un peu normal. Si vous avez moins de prestations, il est normal que vous payiez moins cher. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans une logique d'aide d'État. Les aides d'État, c'est vraiment limité à ces petits aéroports. N'oubliez pas que Ryanair, c'est quand même un modèle assez incroyable où on décolle de nulle part pour aller nulle part. C'est quand même le tour de force de monopole de Ryanair. On vient souvent de dire que Ryanair est d'ailleurs souvent en monopole. Sur Londres-Bergerac, elle est toute seule. Ce qui veut dire que les prix qui nous paraissent finalement relativement faibles, ils sont en réalité des prix de monopole quand on les compare à ses coûts de production.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, Emmanuel Combes, parce que ce qu'on voit, c'est que c'est assez compliqué pour les compagnies traditionnelles de faire jeu égal. On voit qu'elles peuvent, par exemple, lancer une guerre des prix pour tenter de faire sortir du marché le nouvel entrant. Mais c'est une stratégie qui est évidemment très risquée, parce que c'est une pratique qui est considérée par les lois antitrust comme une forme d'abus de position dominante. Donc là aussi, c'est assez dangereux comme stratégie.
Oui, il y a eu des stratégies qu'on appelle de prix prédateur en droit, hein, consistant, vous avez raison de le dire, à baisser c'est violemment les prix pour casser les reins de l'entreprise low cost. Et puis une fois qu'elle est sortie du marché, vous relevez les prix. D'abord, c'est une stratégie qui est très coûteuse puisque vous faites des pertes. Et secondement, vous avez raison, elle est condamnée par les autorités antitrust. Il y avait eu une affaire d'ailleurs Lufthansa au début des années 2000 en Allemagne. Il y a eu une affaire aussi aux États-Unis, American Airlines. Donc cette stratégie-là, un, elle est risquée, elle est coûteuse. Et secondement, elle est condamnée par les autorités antitrust. Donc au fond, les compagnies historiques n'ont pas tellement le choix. Elles sont obligées de s'adapter.
Je crois qu'il faut que des compagnies comme les nôtres sans cesse s'ajustent. Et là, effectivement, on présente cette dernière composante de la cabine renouvelée de notre flotte 777 qui est en train d'être en cours avec ce siège, cette suite, la première, qui est de fait un produit magnifique, de haute couture, avec le souci du détail, une certaine image de la France qui correspond bien avec notre nouvelle campagne, Friends in the Air, l'idée que qu'il faut prendre le meilleur de notre culture, de la France, pour la mettre au service de nos clients, de ceux qui voyagent avec nous, qui découvrent le monde avec nous.
Voilà Frédéric Gaget, le PDG d'Air France, invité sur BFM Business le 9 mai 2014. La meilleure stratégie pour les compagnies historiques, Emmanuel Combes, c'est finalement de mettre en avant leurs atouts, c'est-à-dire par exemple le confort, la ponctualité et bien d'autres choses encore.
Oui et non, Tiffaine. Sur le court et moyen courrier, la messe est dite. C'est le low cost qui a triomphé, alors plutôt un modèle, on va dire, à la EasyJet. Donc là-dessus, il me semble qu'il y a peu de débats et l'avenir d'Air France est sans doute dans la montée en puissance de Transavia. Mais vous avez raison, quand on parle du long courrier, là, Air France a un atout énorme à jouer, puisque rappelons-nous ce qu'on disait, sur le court moyen courrier, on veut pas de l'expérience, on veut de la praticité. Sur le long courrier, on est encore dans l'expérience client. Et là, vous imaginez la valeur du terme Air France. Ce sont les valeurs de la France, la French Touch, éventuellement le luxe. Et là, il y a vraiment une carte à jouer. Et c'est ce que fait, en effet, le nouveau patron du groupe Air France KLM, Ben Smith, qui a décidé, vous savez, de monter en gamme toutes les prestations, mais ça concerne bien le long courrier. On risque peut-être d'arriver à la fin, ce que je disais tout à l'heure, à une sorte de compagnie complètement polarisée à l'image du client. C'est-à-dire avec une filiale plutôt low cost, middle cost, avec du droit du travail français. On reste sur un modèle plutôt à l'EasyJet, où on est dans l'expérience, la ponctualité, la sécurité, point barre. Et ensuite, une expérience client beaucoup plus enrichie quand on fait un Paris-New York. Donc, c'est assez intéressant. Le même client aura peut-être, à l'intérieur de la même compagnie, finalement, ces deux expériences contraires. Ce que je vous disais, le low cost et le, entre guillemets, luxe accessible, loin de s'opposer, à mon avis, se complètent.
Mais alors, ce qu'on constate, Emmanuel Combes, c'est que, en revanche, sur les longs courriers, les low cost ont beaucoup de mal à trouver leur place. Depuis la fin de l'été, on ne compte plus les dépôts de bilan. WOW Air, Germania, Primera Air, Small Planet, Azur, Air Skywork, VLM, Cobalt, Cello. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette hécatombe?
Eh bien, vous avez raison, Tiffaine. Puisque sur le long courrier, nous venons de dire qu'on est quand même encore dans l'expérience client. Là, voyager 8 heures serré, sans aucune prestation, ça commence à devenir problématique. C'est pas impossible. Il y a une compagnie française, je vais y venir, qui réussit très bien. Mais ça reste un marché de niche. On va le dire autrement. Sur le long courrier, moi, je crois pas que le low cost va devenir dominant comme il l'est sur le court et moyen courrier. Car les attentes, en revenant toujours à cette idée-là, les attentes des clients ne sont pas du tout les mêmes. Sur long courrier, vous voulez un minimum de prestations. Ce qui fait que le marché du low cost long courrier, à mon sens, est limité à quelques lignes très touristiques qui sont très, très sensibles au prix. Je pense aux lignes, par exemple, vers les Caraïbes. Et il y a une compagnie française qui réussit très bien sur ce segment de marché. C'est French Bee, filiale de Air Caraïbes. Une compagnie donc française qui a, je crois, trois avions, mais on reste quand même sur une niche. Mais je ne crois pas que sur ce marché-là, le low cost puisse atteindre des parts de marché significatives.
Une niche, dites-vous, mais c'est quand même un secteur qui continue à croître. L'été dernier, les transporteurs à bas prix assuraient 10% de la capacité sur le transatlantique, et c'était 3% en 2013, selon les échos. Alors on voit que, tout de même, il y a encore beaucoup, beaucoup de compagnies qui misent sur le long cours.
Oui, comme vous l'avez dit, Tiffaine, les réussites pour l'instant, Norwegian perd de l'argent, ou a fait faillite, à ma connaissance. Sur le marché, en tout cas, France, Antilles, France, Amérique du Nord, vous avez une seule compagnie low cost, hein, qui gagne de l'argent, c'est FrenchBee. Donc c'est un business model très compliqué. Pourquoi? Parce que les leviers de baisse de coûts n'ont rien à voir avec les leviers de baisse de coûts sur les courts et moyens courriers. Vous vous souvenez, sur les courts et moyens courriers, on va chercher des baisses de coûts de l'ordre de 30 à 60%. Sur le long courrier, c'est pas possible. C'est pas possible de faire un demi-tour en une demi-heure. Le demi-tour, c'est le temps entre le moment où vous atterrissez et vous redécollez. Bah, par définition, quand vous arrivez à New York, il faut rester plusieurs heures. Donc déjà, l'idée qui est de dire, je vais faire des demi-tours rapides, c'est pas possible. Je vais densifier les sièges. Pas si simple. Vous voyez, Tiffaine, voyager pendant 8 heures, 9 heures serrées, c'est pas si simple que ça. Donc je crois que le low cost long courrier, je ne dis pas que le marché n'existe pas. Je dis simplement, je ne crois pas à l'idée que le low cost long courrier connaîtra le même succès qu'il a connu sur le court moyen courrier.
Ça dépendra évidemment du prix du baril. Si on a un baril à $30, ça peut, on peut envisager des vols long courrier à bas prix.
Ouais, est-ce que le client est prêt, toujours pareil, hein, revenons au client et à ses attentes, hein, est-ce que le client est massivement prêt à payer très peu cher en échange d'une prestation minimaliste sur des vols de 8h, 9h, 10h, j'en suis pas si sûr. Alors vous me parlez des vols transatlantiques, vous avez raison, hein, y a une niche sur Paris-New York, sur Paris-San Francisco, etc. Ça reste...
Ce qu'on appelle les petits longs courriers.
Oui, ça reste quand même une niche. Moi, je ne crois pas, hein, à l'idée que le low-cost long courrier va devenir le modèle dominant, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. Je crois que les entreprises ont toujours intérêt à se positionner, ce que fait British Airways très bien d'ailleurs, au départ de Paris. Hein, vous avez une compagnie qui s'appelle Level, qui est une filiale de British, qui tente justement ces vols long courrier low cost.
Et qui vient d'être lancée en juin dernier,
je crois. Oui, en juin dernier, c'est très compliqué quand même de gagner de l'argent, parce que les baisses de coûts, vous allez chercher des baisses de coûts de 10-20%, parce que, je reviens là-dessus, toujours la même chose, hein, les attentes clients ne sont pas les mêmes sur le long courrier. Donc il y a finalement vraiment deux modèles, deux marchés assez différents.
Même si on a des nouveaux avions qui apparaissent et qui sont vraiment taillés sur mesure et plus économiques.
Tiffaine, les avions sont aussi accessibles aux compagnies historiques. Donc vous n'avez pas de véritable avantage comparatif. Ok, vous allez acheter un 780, un Dreamliner, mais si je suis une compagnie historique, moi aussi je peux avoir accès à ces avions. Donc la qualité, si j'ose dire, du matériel, l'efficience du matériel n'est pas une condition suffisante.
Et alors ce qu'on constate en tout cas, Emmanuel Combes, c'est que du côté du personnel, la grogne reste importante. Vous parliez tout à l'heure des avancées qui avaient pu être faites en termes de droit du travail, en termes de rémunération, mais du côté de Ryanair, toujours certains prédisent même la fin du modèle.
Il y a plus de 600 voire 700 personnes qui travaillent ici en Belgique pour Ryanair et malheureusement aujourd'hui c'est la peur qui règne car ils ont peur tout simplement de perdre leur travail parce que M. O'Leary a imposé un système de management qui est loin d'être idéal pour une société telle que Ryanair.
De toute façon, genre, il a voulu imposer un modèle comme ça, voilà, je fais tout ce que je veux, je m'en fous des clients, je m'en fous de mon personnel. Il a eu un monopole dans le low cost pendant de longues années. Il a profité de la crise du secteur aérien, mais maintenant la situation a changé. Il n'y a plus de crise du secteur aérien et il a des concurrents. Mais je crois qu'il arrive à la fin de son modèle.
Voilà le témoignage d'un représentant syndical belge diffusé sur RFI en septembre dernier. Le groupe irlandais dirigé par le sulfureux Michael O'Leary a connu une perte de près de 20 millions d'euros au troisième trimestre 2018. C'était une première depuis 2014. Est-ce qu'on peut estimer tout de même, Emmanuel Combes, que c'est un modèle qui est aujourd'hui fragilisé, qui a besoin en partie de se réinventer?
Alors Tiffany, quand on parle de modèle, c'est pas au sens normatif. Hein, soyons bien clairs, c'est modèle au sens descriptif. Hein, il ne s'agit pas d'ériger Ryanair en exemple. Hein. Je partage ce que viennent dire les deux personnes. Ryanair, c'est vraiment le low cost, si j'ose dire, par le bas en matière de conditions du travail. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de fatalité. Par contre, je ne partage pas leurs conséquences. Je pense au contraire que Ryanair, parce qu'elle est opportuniste, va complètement rebondir parce que c'est la compagnie la plus rentable en Europe. Je vais quand même donner un chiffre qui quand même est assez impressionnant. Le leader français du luxe, Louis Vuitton Moët&Cy, a une marge qui est à peu près de 13-14%. La marge de Ryanair est de 18%. C'est-à-dire que Ryanair est plus rentable qu'une compagnie du luxe. Elle a largement les moyens, à mon avis, de supporter des chocs salariaux. Et donc, je pense au contraire que ce qu'on va voir arriver dans un second temps, je crois beaucoup que Ryanair, qui était plutôt sur des petites lignes confidentielles pour les touristes, va commencer à arriver dans des grands aéroports. Et là, on risque d'avoir, si j'ose dire, une seconde bataille. On a eu finalement une première bataille en France et en Europe, c'est la bataille avec EasyJet. Aujourd'hui, la seconde bataille qui risque d'arriver, notamment sur le marché français, regardez ce qui est en train d'arriver à Marseille, Bordeaux, Toulouse, quid de Paris un jour, c'est l'arrivée de Ryanair. Donc je crois que Ryanair, heureusement ou malheureusement, est loin d'être une compagnie en danger. Je pense qu'au contraire, acculée face à la pénurie de pilotes, acculée à augmenter les salaires, va tirer parti de cette contrainte pour la transformer en en opportunité. Donc je pense que Ryanair restera demain le leader européen du low cost, mais elle va changer de modèle. Elle va aller sur les grands aéroports, elle va commencer à cibler la clientèle business, elle va devoir changer de discours avec les clients. Mais vous constaterez que Ryanair a une très mauvaise image. Et pourtant, les avions sont pleins. Ce qui montre quand même une forme de schizophrénie du client qui vous dit « je n'aime pas Ryanair, mais à la fin, quand on me demande 30 euros, eh bien, je prends Ryanair ».
Encore une fois, il y a la question de la possibilité de faire autrement pour un certain nombre de clients. Mais est-ce que vous ne croyez pas que Ryanair pourrait être justement l'une des rares compagnies qui réussit dans les vols long courrier ?
Alors justement, très intéressant, Ryanair et EasyJet ont toujours refusé de faire du long courrier. Avec l'idée suivante, le court moyen courrier, toujours cette même idée. Ça n'a rien à voir avec un vol de 8 heures. Nous ne voulons pas nous lancer sur ce type de business. Donc c'est très intéressant. Ces compagnies-là, au fond, c'est aussi leur force. C'est un modèle, un objet, surtout pas de diversification d'activité. Donc Ryanair a toujours dit, je vais faire des accords, des partenariats avec des compagnies long courrier. Vous pouvez faire un Beauvais, tenez-vous bien, Buenos Aires. Beauvais, Madrid, Madrid, Buenos Aires, mais c'est pas EasyJet qui fait Madrid, Buenos Aires. Justement, leur grande force, c'est de rester focusé sur un seul segment de marché.
Et ça passe par des partenariats avec des compagnies historiques.
Historiques, non low cost. EasyJet a un partenariat avec Emirates, c'est assez amusant. Hein. Le luxe et le low cost, on revient toujours sur cette idée. Et c'est pas contradictoire, je répète cette idée parce qu'elle est vraiment importante. Le même client qui va prendre EasyJet va se payer un hôtel, va se payer un parfum de luxe, entre guillemets, etc. Ces attentes-là sont contradictoires. Et donc, l'un n'empêche pas l'autre. En tout cas, leur force est de rester toujours focusé sur leur cœur de métier.
Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Emmanuel Combes, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'avenir du low-cost aérien ? Est-ce que les géants du low-cost comme Ryanair ou EasyJet vont encore prendre de l'ampleur et au prix de la disparition des compagnies low-cost les plus faibles, comme on disait, il y en a un certain nombre qui ont disparu au cours des derniers mois ?
Oui, vous avez raison, Tiffaine. Le marché du transport aérien en général et du low-cost en particulier, c'est un marché de taille critique. Il faut être très gros ou disparaître. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir une image de marque auprès du client. WOO Airlines, qui connaissait WOO Airlines, 11 avions. Ryanair, on est à 400 avions. EasyJet, 350. Donc, il faut la taille critique, d'abord pour se faire connaître des clients, pour être présent partout en Europe. Regardez, EasyJet n'est même plus une compagnie perçue comme britannique. On dit que c'est une compagnie européenne. Elle a des bases partout en Europe. Donc, vous avez raison, on va avoir une concentration du marché avec des faillites, avec des rachats. Et à la fin, il restera quoi ? Il restera comme sur le marché américain, 4-5 acteurs. La vraie question qui est posée aujourd'hui, on connaît le numéro 1, il s'appelle Ryanair, on connaît le numéro 2, il s'appelle EasyJet, qui sera le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5, et est-ce que les grandes compagnies historiques, et notamment Air France, et notamment Lufthansa, seront encore présentes sur ce marché ?
Et à quelles sont les compagnies qui se profilent justement, numéro 3, numéro 4, numéro 5 ?
On voit Vueling est bien positionné dans la course. Air France, tout va dépendre, me semble-t-il, de la montée en puissance de Transavia France, qui, vous le savez, est pour l'instant bloquée à 40 appareils, et la direction souhaiterait, en accord avec les syndicats, passer à une centaine d'appareils. Il faut une taille critique. Donc l'enjeu pour les compagnies historiques, à mon sens, on peut le regretter, hein, mais c'est comme ça, à l'horizon de 10 ans, c'est est-ce que je prends vraiment le prix du low cost sur les vols de 2-3 heures, et là je reste dans la course, ou alors, malheureusement, je vais être marginalisé.
Un grand merci Emmanuel Combes.
Merci Tiffaine.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur un chiffre cité depuis 2 jours par le gouvernement. Seuls 10% des Français seraient favorables au retour de l'ISF.
Mais oui, depuis quelques jours, le Premier ministre et les membres du gouvernement se multiplient sur les plateaux télé pour rendre compte des résultats du grand débat. Et il semblerait au miracle que ces résultats viennent conforter la politique du gouvernement. Ainsi, un dixième à peine des Français se serait prononcé pour un rétablissement de l'impôt sur la fortune. De la même manière, le Premier ministre a tenu à saluer lors de sa prise de parole au Grand Palais la grande lucidité des Français conscients de la nécessité de réduire les dépenses publiques. En clair, les Français seraient favorables à la politique menée par le gouvernement, n'en déplaise aux quelques gilets jaunes qui continuent de troubler la bonne marche du pays et de la réforme.
Pourtant, les résultats présentés du grand débat sont jugés problématiques par un certain nombre d'observateurs.
Oui, il faut dire que les questions posées ainsi que leur formulation étaient pour le moins orientées, faisant disparaître la question de l'ISF tout en laissant largement transparaître l'idée selon laquelle une baisse des impôts passerait nécessairement par une baisse des dépenses publiques. Ainsi, sur les 11 questions relatives à la fiscalité, 9 étaient des questions fermées, ne mentionnant pas l'ISF, les deux autres des questions d'ordre général. Le gouvernement a donc beau jeu de brandir le peu de contributions concernant l'ISF après l'avoir sciemment écarté des questions posées. On rappellera tout de même qu'un récent sondage réalisé par Opinionway sur un panel représentatif des Français confirme qu'une très large majorité des Français sont favorables à un rétablissement de l'ISF 71% pour être précis, bien loin donc des 10% brandis par le gouvernement comme un argument d'autorité.
C'est d'ailleurs l'autre critique formulée à l'encontre des résultats du grand débat, il ne serait ni exhaustif ni représentatif.
Non, effectivement, il devrait donc être considéré comme tel. Ainsi, il est important de rappeler que lorsque le gouvernement dresse les conclusions du grand débat, il se fonde uniquement sur les contributions en ligne, soit environ 500 000 personnes. Pas exactement de quoi prétendre à une forme d'exhaustivité ou de représentativité. D'autant qu'il est important de regarder concrètement qui a participé à cette consultation en ligne. Ainsi, les données transmises par l'Institut OpinionWay, toujours en charge de l'analyse des contributions, sont on ne peut plus claires. Ce sont avant tout les habitants des grandes métropoles comme Lyon ou Paris qui se sont exprimés quand les zones rurales sont largement sous-représentées dans cette consultation. En clair, une sociologie de participants bien plus proche de l'électorat de Macron que du cœur des Gilets jaunes.
Le Premier ministre a lui-même admis lors de son discours que la synthèse de la consultation n'avait pas pour ambition d'être exhaustive.
Oui, il a ainsi rappelé qu'il était difficile de résumer par un discours les millions de mots et les milliers d'idées exprimées par les Français, ajoutant que toute synthèse, quel que soit son format, paraîtrait toujours un peu réductrice. Une précaution oratoire que l'on aurait pu saluer si elle n'avait pas rapidement cédé le pas à une longue série de généralités sur la volonté des Français. Ainsi, Édouard Philippe ne parle plus des participants à la consultation en ligne, mais bien des Français dans leur ensemble. Difficile dans ces conditions de ne pas voir l'usage éminemment politique qui est fait de cet exercice. Dans un basculement sémantique habilement orchestré, le grand débat ne sert plus d'instance de dialogue et de concertation, mais bien d'outil de validation et de légitimation de la politique mise en œuvre par le gouvernement. Les Français s'étant désormais exprimés, toute contestation de la ligne choisie reviendrait à une forme de déni de démocratie. En clair, circuler, il n'y a rien à voir. Pas sûr néanmoins que cette parodie de démocratie suffise à convaincre les Français que leur voix a été écoutée.
Se quitte avec Mr. Airplane Man de Bill Sims. Merci beaucoup Emmanuel Combes de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle que la nouvelle édition de votre ouvrage, intitulée simplement Le Low Cost, est parue hier à La Découverte. Demain, nous ouvrons le débat sur la privatisation des aéroports français avec les journalistes Martine Orange et Isabelle Jarjaille. Hier, les députés de l'opposition ont lancé un référendum d'initiative partagée pour empêcher l'État de privatiser Aéroports de Paris. On en parle demain à partir de 14h. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr, à la page d'Entendez-vous l'écho et sur toutes les applications de podcast. On vous attend évidemment également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.